Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Pierre Pinto.
Merci d'être avec nous pendant une heure. Vous avez donc la parole. Dans 30 minutes, notre débat du jour. Barack Obama, vous le savez, a quitté l'Afrique de l'Est après une tournée qui l'a conduit au Kenya et en Éthiopie. Une visite qui s'est achevée hier par un grand discours au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Économie, démocratie, paix, sécurité, société. Le président américain a passé en revue pendant une heure tous les points forts et les points faibles de l'Afrique. Un discours qu'on annonçait historique. Mais vous, qu'en avez-vous pensé? Et globalement, que faut-il retenir, selon vous, de cette tournée est-africaine d'Obama? Qu'attendez-vous comme retombée pour le continent en matière économique, mais aussi politique ou démocratique? Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et rendez-vous donc dans une demi-heure. D'ici là, comme chaque jour, c'est l'heure de vos questions à la rédaction. Vous souhaitez revenir sur tel ou tel sujet d'actualité? Les journalistes d'RFI, nos spécialistes sont là pour vous répondre. Et nous allons tout de suite au standard où nous attend Herman, qui nous appelle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Herman, bonjour.
Bonjour Pierre.
Vous avez, vous, des questions sur l'indemnisation en Côte d'Ivoire des victimes des violences de 2010-2011. On vous écoute.
Oui, j'ai des questions à propos de l'indemnisation des victimes des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir où le président Ouattara va-t-il trouver les fonds pour indemniser toutes ces victimes? Et quelle somme chaque victime pourra-t-elle obtenir?
Alors pour vous répondre, Anna Sylvestre est en ligne avec nous. Bonjour Anna.
Bonjour Pierre, bonjour Herman, bonjour à tous.
Vous êtes l'une des correspondants de RFI en Côte d'Ivoire. Alors c'est vrai que le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé le week-end dernier que l'indemnisation des victimes de la crise allait commencer le 4 août prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Nous sommes avec vous. Donc d'abord, qui est concerné par cette indemnisation, Anna?
Oui, eh bien, au total, plus de 158 000 victimes ont à ce jour été recensées par la CDVR, puis la CONARIV. Hein. La CDVR, c'est la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ses membres ont parcouru le pays, ils étaient chargés d'auditionner de nombreuses personnes. Et puis, cette commission a été remplacée en avril dernier par la CONARIV, la commission pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. 158 000 victimes, donc. Mais ce n'est peut-être pas fini, selon un membre de cette institution. Beaucoup de gens seraient en train de taper à leur porte. Leur mission de recensement pourrait être prolongée, c'est en tout cas en réflexion. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'au sein de ces 158 000 victimes, il y a énormément de situations différentes. Il n'y a pas seulement les victimes des violences post-électorales de 2010-2011, dont nous parlait Herman, mais bien toutes celles de la décennie de crise ivoirienne. Pour l'instant, aucune distinction n'est faite, et ce qui a été annoncé, c'est donc que 4500 d'entre elles vont d'abord être indemnisés, Pierre.
Ouais, 4500 qui vont être indemnisés, les premières, hein, si on vous comprend bien, dès le début du mois d'août, dès la semaine prochaine, mais plus de 4 ans après la fin de la crise tout de même. Alors comment ont-elles été choisies, ces victimes indemnisables, Anna?
Oui, selon le porte-parole du gouvernement, Bruno Conné, il va s'agir en fait des victimes les plus graves, c'est-à-dire selon lui, des proches des personnes qui ont été tuées, qu'elles soient civiles ou militaires.
Et comment les autorités ivoiriennes vont trouver ces fonds pour l'indemnisation?
Eh bien, d'abord en 2015, 10 milliards de francs CFA, environ 15 millions d'euros, ont été provisionnés sur le budget de l'État ivoirien pour l'indemnisation des victimes. 6 à 8 milliards vont être rapidement débloqués pour cette première vague d'indemnisation. C'est ce qui a été annoncé le week-end dernier. Alors, c'est énormément d'argent, d'autant qu'il restera beaucoup de personnes à indemniser. Cela devrait se chiffrer en dizaines, en centaines de milliards de francs CFA. On ne sait pas encore combien cela va coûter exactement. Alors, selon Bruno Conné, le porte-parole du gouvernement, une partie du budget de l'État en 2016, mais aussi certainement en 2017, devrait aussi être consacrée à cela. Mais à vrai dire, toutes les contributions, le porte-parole du gouvernement nous l'a affirmé, sont les bienvenues, celles de bailleurs de fonds internationaux par exemple, ou bien de pays amis, la Côte d'Ivoire. car selon les autorités ivoiriennes, il en va là de la réconciliation de la paix en Côte d'Ivoire, Pierre.
Alors, Herman nous posait une autre question, plus terre à terre. Combien chaque victime pourra-t-elle toucher?
Oui, je vais peut-être le décevoir parce qu'à vrai dire, on n'en sait rien. Cela n'a pas été rendu public pour l'instant. Des membres importants de la CONARIF que j'ai pu joindre avouaient qu'eux-mêmes n'en avaient pas encore été informés. Même chose du côté des associations de victimes. Ce que l'on sait, c'est que les sommes ne seront pas les mêmes pour tous, pour toutes les victimes. Elles seront en fonction du statut, du lien à la victime. Car dans les personnes indemnisées, il y a des proches de gens tués, par exemple, mais aussi des blessés ou encore des personnes qui ont été pillées ou dont la maison ou le champ sont occupés. Autant de situations, vous le voyez, très différentes les unes des autres.
Comment, en quelques secondes, comment réagissent Sana, ces victimes, à ce début d'indemnisation?
Oui, bien évidemment, elles se réjouissent de ce début d'indemnisation. Mais pour le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, par exemple, que j'ai pu joindre, il s'agit moins d'obtenir de l'argent que de la considération de la prise en charge. Par exemple, ce collectif aimerait que les orphelins de la crise soient suivis et pris en charge pendant toute leur scolarité par l'État, Pierre.
Mmh. Anna Sylvestre, en direct de d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci. Retour au standard, au 33 9 693 693 70, pour parler d'un tout autre sujet. Issaka, bonjour.
Oui, bonjour Pierre.
Vous nous appelez du Burkina et vous avez des questions sur la mobilisation des agriculteurs français à laquelle on assiste depuis une dizaine de jours.
Effectivement. J'ai suivi la semaine passée un mouvement d'humeur des agriculteurs français. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi protestent-ils et quel est leur problème avec les agriculteurs.
Alors, pour vous répondre, Sébastien Duhamel de la rédaction est en studio avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierre.
Question simple, pourquoi les agriculteurs protestent-ils? Quel est le problème avec les agriculteurs en France?
Bonjour Issaka également. Tout d'abord, il faut préciser qu'il ne s'agit pas de tous les agriculteurs. Ce sont plus particulièrement les éleveurs qui font entendre leur voix en ce moment en France. Les producteurs de lait, de viande bovine et porcine. Leur problème est simple, c'est bien souvent la survie de leurs exploitations qui est en jeu. Avant même la grogne, avant les manifestations dont nous parlons, c'est le ministre de l'Agriculture lui-même qui a lancé un signal d'alarme le 17 juillet dernier. Selon lui, près de 10% des exploitations d'élevage françaises sont au bord du dépôt de bilan cet été. Ça représente pas moins de 22 à 25 000 exploitations. Alors, comment expliquer cette crise dont nous parle le ministre? Eh bien, c'est sûr qu'il y a de nombreuses raisons, mais c'est avant tout une crise des revenus des éleveurs. Si on regarde les chiffres de la Commission des comptes de la Nation, le revenu moyen d'un éleveur bovin, d'un éleveur de viande bovine, par exemple, c'est un peu moins de 16 000 euros par an. Et ce, avant impôt, avant qu'il n'ait payé ses charges, ce qui revient au final à un peu moins de 1000 euros par mois. C'est en dessous du SMIC, le salaire minimum en France, alors qu'on sait que la charge de travail est généralement lourde. Les éleveurs de porc, eux, ont vu leurs revenus baisser de près d'un tiers comparé à la moyenne des trois années précédentes.
Alors, s'il y a une crise des revenus, comme vous venez de l'expliquer, c'est ce que dénoncent d'ailleurs les éleveurs, c'est parce qu'il y a une crise des prix.
Oui, et c'est vrai pour les trois filières qui manifestent leur colère en ce moment, qu'on parle des producteurs laitiers, des éleveurs de bovins viande ou de porc, tous alertent sur l'effondrement des cours, sur des prix de vente qui ne couvrent plus ou alors à peine leurs coûts de production, des coûts de production qui augmentent. Et il suffit d'ailleurs de regarder en détail. Au début des manifestations, la FNSEA, syndicat d'exploitants, nous expliquait que le prix du porc payé aux producteurs atteignait 1,38€ le kilo, alors que le coût de production est estimé, lui, à 1,40€ par kilo. Le lait, jusqu'à la semaine dernière, se vendait à 30 centimes le litre, 300€ la tonne, alors qu'il faut 340€ pour la produire. On comprend que c'est pas économiquement viable, dans un secteur qui nécessite des investissements lourds, où de nombreux exploitants sont endettés. Alors certes, vendredi, les producteurs de lait viennent d'obtenir de leurs partenaires un engagement sur une hausse des prix. Jusqu'en décembre, le lait ne pourra pas leur être acheté à moins de 340€ les 1000 litres, mais comme je le disais, ça couvre à peine les frais de production. Idem pour les éleveurs de bovins viande. Le 17 juin dernier, ils avaient obtenu un engagement des autres acteurs du secteur. Toutes les semaines, le prix de la viande payée aux producteurs devait augmenter de 5 centimes. Or, 4 semaines plus tard, les éleveurs ne constater qu'une augmentation de 7 centimes.
Alors, on pointe du doigt régulièrement, en tout cas les éleveurs eux-mêmes, la grande distribution. Est-ce que c'est la grande distribution la responsable?
Dans le cas de la filière viande bovine, par exemple, on est dans un système d'une très grande complexité, selon les propres mots du médiateur qui a rendu son rapport mercredi dernier. Alors certes, le prix à la consommation a augmenté ces dernières années. La grande distribution a enregistré une hausse régulière de ses marges. Mais entre le producteur et le distributeur, il y a des intermédiaires. des industriels, des transformateurs, les abattoirs. Et ce sont les abattoirs qui semblent avoir le dernier mot dans la fixation du prix aux éleveurs, mais eux doivent également composer avec les exigences de la grande distribution. Et puis il ne faut pas oublier qu'on parle d'un marché mondialisé. Il subit de plein fouet un contexte général défavorable. Les producteurs de lait ont vu la fin des quotas laitiers européens en avril dernier. Ils régulaient le secteur depuis une trentaine d'années. La Chine a brusquement réduit de moitié sa demande de poudre de lait, alors que sa demande était croissante depuis 2010. Sans parler de l'embargo russe sur les produits agroalimentaires, établi en août dernier à la suite de la crise ukrainienne, la Russie, c'était quand même le troisième marché pour les opérateurs français en 2013. Près de 100 millions d'euros d'exportation de produits laitiers cette année-là, même estimation pour la filière porcine. Donc l'économie chinoise moribonde, l'embargo russe, ce sont des événements qui, en réduisant la demande, engorgent le marché européen, alors que les éleveurs dénoncent déjà la concurrence imposée par les éleveurs espagnols, les éleveurs néerlandais, surtout les Allemands. C'est pour ça qu'ils manifestent en ce moment, et c'est pour ça qu'ils ont installé des barrages filtrants aux frontières également.
Sébastien Duhamel du service économique d'RFI, merci beaucoup, et merci à Issaka qui nous appelait du Burkina. 10h21 à Paris, l'actualité française, on continue d'en parler, puisque Tariq nous appelle de N'Djamena avec une question. Bonjour Tariq.
Oui, bonjour Pierre.
Vous avez une question sur ces fameux paquets de cigarettes neutres. On vous écoute.
Oui, bien sûr. J'ai appris sur RFI la semaine dernière qu'à partir de mai 2016, les paquets de cigarettes auront tous les mêmes tailles et les mêmes couleurs, sans logo permettant de les distinguer. Alors ma question est de savoir, cette mesure a-t-elle eu un impact sur le jeûne en Australie, où cette mesure a été adoptée en 2012 ?
Alice Poziki, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous également. C'est vrai que ce paquet neutre, sans marketing, avec des messages sanitaires très importants, est-ce que ça va changer vraiment quelque chose ?
Bah ça, Pierre, c'est compliqué de le savoir avant même de le mettre en place. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le gouvernement français est très motivé pour instaurer ce paquet neutre. D'ailleurs, il y a déjà eu une date d'entrée en vigueur dans les bureaux de tabac, c'est le 20 mai 2016, alors même que le projet n'a pas été définitivement adopté par le Parlement. L'Assemblée nationale a dit oui en avril dernier, mais le Sénat, qui était réuni en commission la semaine dernière, a supprimé le projet du paquet neutre. Dans la foulée, Marisol Touraine, la ministre française de la Santé, s'est engagée à présenter dès le mois de septembre un nouvel amendement au Sénat sur le paquet neutre, comme quoi rien n'est encore gagné.
Et le paquet neutre, c'est un peu le fer de lance du plan anti-tabac défendu par le gouvernement. Pourquoi sa mise en place est si difficile ?
Eh bien parce que le paquet neutre ne sert pas les intérêts de tout le monde. Les buralistes sont contre, puisque s'il y a moins de fumeurs, il y a moins de paquets de cigarettes de vendus et donc moins de recettes pour eux. Ça a d'ailleurs été l'objet de leur manifestation la semaine dernière. Et puis plus haut encore, il y a les industriels du tabac qui dégagent des milliards d'euros de bénéfices et qui sont évidemment vent debout contre cette mesure. Là encore, pour une question d'argent, ils n'ont aucun intérêt à ce que les fumeurs décident d'arrêter.
Alors la question de Tariq, c'était est-ce que ce paquet neutre qui est mis en place depuis 2012 en Australie a eu un impact sur les fumeurs australiens ?
Alors si on en croit la ministre française de la Santé, c'est oui. Elle clame haut et fort qu'en Australie, le paquet neutre a permis de diminuer la consommation de tabac chez les plus de 14 ans de 15,1% en 2010 à 12,8% en 2013. Mais le lien de cause à effet, il n'est pas si évident que ça parce que, dans le même temps, une autre mesure a été mise en place en Australie. C'est la hausse significative du prix du paquet de cigarettes. Depuis 2013, le prix du paquet augmente de 12,5% chaque année, si bien qu'aujourd'hui, un fumeur australien dépense en moyenne 15 euros pour acheter un paquet. En France, c'est plutôt aux alentours de 7 euros. Alors, est-ce que c'est le prix qui dissuade les fumeurs ou vraiment le paquet neutre ? Ça, c'est un mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement français croit en l'efficacité du paquet neutre. Mais la hausse du prix du paquet de cigarettes, ça, c'est un autre sujet qui fâche et qui, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour.
Et le feuilleton va se poursuivre. Merci, Alice Poziki. 339 693 693 70. Retour au standard où nous attend Lamine. Lamine, bonjour.
Bonjour Pierre Pinto et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous souhaitiez revenir ce matin sur cette affaire du Coran, de ce très vieil exemplaire du Coran, en tout cas de fragments du Coran, retrouvé dans une université britannique. Vous avez des questions là-dessus, on vous écoute.
Effectivement, j'ai appris sur RFI que quelques pages du Coran ont été retrouvés dans une bibliothèque universitaire en Birmingham, en Angleterre. Et à cet effet, je voulais savoir quel est l'itinéraire suivi par ces pages jusqu'à atteindre cette bibliothèque. Et puis, en deuxième question, pourquoi ces phases ne sont retrouvées que maintenant.
D'accord. Pour vous répondre, Carlotta Morteo est avec nous. Bonjour Carlotta.
Bonjour Pierre, bonjour Lamine.
Alors comment cet exemplaire du Coran, ces feuillets du moins, se sont retrouvés au Royaume-Uni? Quel itinéraire ont-ils suivi pour en arriver là?
Alors c'est vrai que c'est un périple assez étonnant, aussi étonnant que le parcours de l'homme qui a ramené ces textes millénaires en Angleterre dans les années 1920. Il s'appelle Hurmiz Alphonse Mingana et il est né en 1878 à Mossoul, en Irak, dans une famille chrétienne. Il est très jeune. Il entre au séminaire pour devenir prêtre et il va apprendre un nombre impressionnant de langues pour étudier les textes sacrés. L'araméen, l'hébreu, l'arabe, le turc, le perse, le kurde, mais aussi le français. Il se passionne pour les livres anciens qu'il va non seulement analyser, mais traduire, faire publier. Et puis il va se mettre à écrire, interpréter les textes, ce qui va parfois lui attirer des ennuis, voire même créer une véritable polémique.
Une polémique qui va même changer le cours de sa vie, parce que dans un de ses livres, il conteste ouvertement la ligne théologique de sa hiérarchie.
Oui, et sans ça, il serait sans doute resté en Irak, mais vu que l'église chrétienne d'Orient va mettre à l'écart cet impertinent, Mingana décide de partir. Il voyage pendant plusieurs mois à travers le Moyen-Orient et commence à se constituer une petite collection de livres anciens. À l'époque, il a 34 ans et sur la route, il rencontre un pasteur américain, et oui, la mondialisation déjà, qui lui parle d'un libraire qui vit à Birmingham et qui est conservateur de manuscrits. Alors, ni une ni deux, Alphonse Mingana va en Angleterre, rencontre le libraire, enseigne les langues orientales et la théologie chrétienne du monde arabe à l'université. Et vu qu'il est polyglotte, érudit et qu'il a l'œil pour déceler les bons manuscrits, la prestigieuse bibliothèque John Rylands de Manchester l'envoie au Moyen-Orient acheter des livres. Il repart donc en Syrie, en Irak, en Égypte. Et ce serait là, en Égypte, chez un marchand du Sinaï, que Mingana aurait déniché ces fameux parchemins. Donc deux feuillets d'un Coran très ancien, deux feuillets qui sont seulement une partie du trésor qu'il a ramené de ses voyages, un trésor de 3000 pièces manuscrites, millénaires et en différentes langues.
Alors l'autre question de Lamine, c'était de savoir comment on pouvait expliquer cette découverte tardive alors que donc ces documents étaient conservés dans une bibliothèque.
Alors oui, la collection de Mingana dans son ensemble, elle est conservée dans des pièces qui sont sécurisées, maintenues à une certaine température et qui ne sont accessibles qu'aux chercheurs. Donc en gros, il a fallu attendre qu'une doctorante, pendant ses recherches, mette la main sur ces deux fragments de Coran il y a quelques mois et se dise « Tiens, la calligraphie, c'est étrange, elle est bien différente du reste du recueil. » Car en fait, ces deux pages étaient rangées dans un très vieux Coran composé de divers éléments, pas tous de la même époque, avec certaines sourates écrites sur du parchemin végétal, d'autres sur des peaux d'animaux et même certaines sur des omoplates de chameaux. Donc, face à ces deux pages qui se démarquent du lot, la chercheuse fait faire des analyses au carbone 14 qui ont révélé à 95% de probabilité que ces fragments datent de la période pendant laquelle le prophète Mohammed prêchait la bonne parole.
Mais sauf qu'on assiste depuis quelques jours à une polémique qui conteste cette datation scientifique, notamment en Arabie Saoudite.
Oui, alors les érudits saoudiens estiment que dater la peau de l'animal sur laquelle sont retranscrites les sourates, ça n'est pas suffisant. Et sur ce point, ils ont raison, car cette peau d'animal qui sert de parchemin peut être de l'époque du prophète, mais l'encre, les écrits, eux, pourraient être plus récents. Le problème, c'est que l'encre, on ne sait pas la dater, et que de toute façon, l'université de Birmingham défend que c'est aussi la forme de cette calligraphie qui prouve l'âge exceptionnel de cette trouvaille, une calligraphie typique de la période du prophète et de la région du Hedjaz, où se situent la Mecque et Médine. Mais là encore, les Saoudiens ne sont pas d'accord. Bref, c'est maintenant tout un débat entre les chercheurs anglais et les théologiens saoudiens, et il est compliqué de faire la part des choses, car à la science se mêlent la religion et la politique. Posséder le plus vieux Coran du monde, c'est quand même tout un symbole. D'ailleurs, et ce sera le mot de la fin, un institut de recherche islamique turc s'est lui aussi exprimé à propos de cette découverte, et il a tenu à préciser que, même si les deux fragments de Coran de Birmingham sont les plus anciens, eh bien eux, à Istanbul, conservent le Coran dit du palace Topkapi, un Coran très précieux car il ne manque que deux pages, ce qui fait de lui le Coran le plus complet, le plus vieux du monde.
Voilà, la compétition est ouverte. Merci Carlotta Morteo. Restez avec nous, dans 10 minutes on parle de Barack Obama et de sa tournée africaine. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.